France Culture.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Bonjour Andriy Kourkov.
Bonjour.
Et merci mille fois d'être avec nous. Il faut que je vous présente. Bon, normalement, on vous connaît, mais quand même, je dois insister sur qui vous êtes. Vous êtes probablement le plus grand écrivain ukrainien. Vous êtes devenu une figure incontournable de la littérature ukrainienne contemporaine. Vous êtes né à Leningrad. Ça fait partie justement des destins ukrainiens. Vous êtes russophone. Vous écrivez principalement en russe. Vous êtes l'auteur de nombreux romans, essais, chroniques. Alors, on a notamment pu vous connaître avec Le Pingouin, c'est un roman qui a été publié en 1996, un roman teinté d'absurde et de mélancolie, où justement la satire politique côtoie la détresse humaine post-soviétique. J'ai envie de dire que c'est un roman très ukrainien. Et puis avec l'annexion de la Crimée en 2014, et puis plus encore bien sûr avec l'invasion russe de 2022, vous êtes devenu une voix essentielle, peut-être la voix la plus connue, en plus une voix parfaitement francophone de la résistance culturelle ukrainienne. Vous n'avez cessé de faire des allers-retours entre l'Occident, l'Europe et l'Ukraine. Et puis, vous avez publié Notre guerre quotidienne. C'est ce livre que j'ai à côté de moi. Les éditions Noir sur Blanc l'ont publié. C'est une série de chroniques que vous avez d'abord fait paraître dans le Financial Times et dans le Guardian. Andriy Kourkov, il faut d'abord que je vous demande votre point de vue sur ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, mais aussi derrière notre dos, en tout cas à notre insu, entre Donald Trump et Vladimir Poutine.
Oui, c'est une question très difficile parce qu'à partir de novembre, des élections présidentielles aux États-Unis, les Ukrainiens étaient au début choqués. Ils sont devenus pessimistes. Ils pensaient que maintenant, Trump et les États-Unis vont abandonner l'Ukraine. Après, il y avait un peu d'espoir parce que Trump a envoyé quelques messages qu'il va demander le paix juste pour l'Ukraine. Et aujourd'hui, c'est encore une fois plutôt la situation triste pour l'Ukraine parce qu'il y a des problèmes avec commercialisation des négociations pour la paix. C'est clair que Trump, c'est un businessman plutôt qu'un homme d'État qui veut les métaux, qui veut les minéraux d'Ukraine en échange pour l'aide, mais dans le contrat qui président Zelensky était proposé à Munich, il n'y avait pas de garantie de sécurité pour les intérêts des Ukrainiens. Et comme ça, c'est aujourd'hui pas possible à prévoir le résultat de ces tentatives de négociations. Plutôt, après la conversation téléphonique entre Trump et Poutine, où Trump était très amical, Trump a dit que oui, on a combattu contre l'Allemagne des nazis, ensemble la Russie et les États-Unis, la Russie n'existait pas pendant la guerre deuxième mondiale, c'était l'Union soviétique, et dans l'Union soviétique, il y avait des millions de soldats ukrainiens qui étaient tombés pour l'Union soviétique. On va voir qu'est-ce qu'il va passer parce qu'aujourd'hui, c'est Riyad, c'est l'Arabie Saoudite, c'est la rencontre entre Rubio et Lavrov. Président Zelensky, pas loin, il était dans les Émirats Arabes Unis hier. Je pense que c'est pas une situation très agréable géopolitiquement.
C'est une situation qu'on peut imaginer être désagréable puisque les Ukrainiens ne sont pas évidemment invités à cette conférence et c'est quelque chose de terrible. Qu'est-ce que vous redoutez? Qu'est-ce que les Ukrainiens, selon vous, Andriy Kourkov, puisque vous connaissez votre peuple, qu'est-ce que les Ukrainiens sont prêts à accepter dans ces pourparlers?
Oui, il faut comprendre peut-être d'abord que c'est la fin des troisième années de la guerre. Il y a au minimum trois Ukraines aujourd'hui. C'est l'Ukraine des réfugiés, c'est 7 millions de réfugiés ukrainiens en Europe, aux États-Unis, aussi à Canada, au Japon. C'est Ukraine déplacée. C'est 6-7 millions des Ukrainiens qui ont perdu ces maisons, ces appartements, qui habitent dans les autres régions d'Ukraine, qui parfois essayent à s'adapter, mais ça marche très pas du tout facilement. Et ces gens, et bien sûr, les gens comme moi qui habitent toujours chez eux. C'est-à-dire, nous habitons à Kiev, oui. Kiev est bombardé chaque nuit, chaque jour, mais on essaie à survivre et mener une vie presque normale, sauf on ne dorme jamais à cause des alertes.
Et vous dites presque normal, mais dans notre guerre quotidienne, le livre que vous publiez aux éditions Noir sur Blanc, on se rend bien compte que c'est tout sauf normal. C'est une vie où on a froid, où on oui. ne voit pas parce qu'il n'y a pas d'électricité, oui, mais... où on a peur parce que les bombes tuent.
On est en vie. On est alive, comme on dit en anglais. Et c'est très important. Et je crois que c'est l'esprit ukrainien que les gens sont ravis qu'ils sont en vie. Que la maison n'est pas détruite cette nuit, aux dernières nuits. C'est qu'on peut acheter l'alimentation dans les supermarchés. On peut aller au café, mais s'il y a des alertes, parfois il faut se cacher dans les abris anti-bombes ou dans les couloirs, tout ça.
Comment est le moral ?
Les gens sont très fatigués, traumatisés, mais pas dépressé, c'est-à-dire il n'y a pas de désespoir. C'est plutôt, en fait, c'est les gens, les réfugiés à l'étranger, parfois sont beaucoup plus touchés par la situation. Et si vous demandez les réfugiés s'ils sont d'accord à la prise des territoires occupés, peut-être ces gens diront plutôt oui aujourd'hui.
Mais ça, Ukraine, c'est important. Non. C'est important ce que vous venez de dire quand je vous demande qu'est-ce que les Ukrainiens sont prêts à accepter. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à accepter de donner des territoires à la Russie ?
Les Ukrainiens qui sont en Ukraine, la majorité ne sont pas prêts pour ça. Mais ils peuvent accepter ça comme une mesure temporaire, c'est-à-dire pour arrêter le feu, pour avoir cesse de feu, mais pas pour signer un accord pour tout le temps, c'est-à-dire pour accepter que les frontières d'Ukraine sont changées pour toujours.
Mais vous imaginez pouvoir vivre avec la Russie à côté ? Comment pouvoir dormir alors que, bon...
Oui, la Russie va rester... notre voisin.
C'est... Sur le plan géographique, vous avez raison.
Oui, il n'y a pas de moyen d'échapper à ça. On peut croire que dans quelques années, il y aura le changement des régimes, mais je ne suis pas sûr parce que les Russes qui étaient contre la guerre, ils sont soit emprisonnés, soit émigrés.
J'ai appris un mot, paraît-il, très important en russe, le mot « savok ».
Oui, c'est savoir que c'est l'Union soviétique, c'est-à-dire dans la tête. C'est la mentalité soviétique, c'est être loyal à n'importe quel régime, avoir peur, ne dire pas la vérité, ne dire pas qu'est-ce que tu penses, c'est caché pour tranquillement suivre la vie jusqu'à la fin. C'est savoir que ça existe aussi un peu en Ukraine parmi les gens des générations plus vieilles, mais en Russie, c'est maintenant la mentalité principale.
Voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué. On m'a dit que c'était le retour à Savok.
Oui, oui, oui. C'est vrai. Retour à Savok, c'est le retour à la vie soviétique, avec peur des goulags, avec hiérarchie. À l'époque communiste, aujourd'hui, c'est des hiérarchies des services secrets.
Mais alors, justement, quand on voit cela, parce qu'il y a un contraste important, et on le comprend dans votre livre « Notre guerre quotidienne », le livre que vous publiez aux éditions Noir sur Blanc, il y a un contraste entre cette vie soviétique qui est le retour à une ère passée et la vitalité de la société ukrainienne. Lorsqu'on va en Ukraine, on est frappé de découvrir des gens comme vous et moi, Andrei Kourkov.
Oui, c'est parce que les Ukrainiens étaient toujours plus européens. Ils étaient toujours les individualistes, pas les gens collectifs comme en Russie. La Russie était monarchie, comme ça, hiérarchie fonctionnait très bien toujours pendant les années. Et en Ukraine, au XVIe siècle, les Ukrainiens, les Cosaques, s'est choisi le chef d'État, le chef de territoire qui s'appelait Hetman. Ils participaient dans la vie politique, comme aujourd'hui, les Ukrainiens sont beaucoup plus politisés que les Russes. Et bien sûr, les Ukrainiens sont un peu anarchistes parce que la plus grande armée des anarchistes était organisée à Kiev en 1918 par Nestor, pas à Kiev, en Ukraine, dans la région de Poltava, par Nestor Makhno. Et c'est aussi une des armées ukrainiennes qui battu pour l'indépendance d'Ukraine au début de la guerre civile.
Mais alors, justement, lorsqu'on voit cette évolution de la société, est-ce que celle-ci est mise à mal par la guerre? Je veux dire que les guerres sont aussi des moments où la liberté diminue, où on a peur de dire tout ce qu'on pense, on a peur de dire qu'on a peur, on a dit peur également de dire qu'on préférerait peut-être une mauvaise paix à une terrible guerre.
Oui, il y a un peu des problèmes comme ça, mais c'est les problèmes créés pas par les États, pas par les gouvernements, c'est par la société. Les gens les plus actifs politiquement, ils essaient à contrôler ce que les autres disent. Et peut-être si vous, comme un journaliste, posez une question à quelqu'un sur la rue, peut-être si c'est une conversation privée, la personne va vous dire tout qu'il pense, elle pense. Mais dans le discours public, la même personne va peut-être va décider d'être moins résolue, c'est-à-dire peut-être par exemple si vous posez la question sur échange de territoires pour le paix, beaucoup de gens qui pensent que c'est possible ne diront pas ça.
Mais justement, on a un peu l'impression que vous évoquez cette écriture sous contrainte, c'est-à-dire l'obligation morale de croire en la victoire.
Oui, c'est comme la religion. En fait, en 2013-2014, pendant le Maïdan, il avait des slogans sur les rues. Oui, la André, liberté est notre religion.
André, il faut rappeler ce qu'est Maïdan.
Maïdan, c'est la révolution de 2014-2013, quand les Ukrainiens demandaient que le président Yanukovych signe l'accord d'association avec l'Europe. Et quand il a refusé, il a décidé de se lier avec Poutine, la révolution, les protestations commençaient. Et en fait, aujourd'hui, la guerre, c'est la continuation de cette situation parce que la Russie ne voulait pas accepter que l'Ukraine va dans une autre direction européenne et ne reste pas dans l'espace post-soviétique sous contrôle de Moscou.
Et pour vous, cette guerre, elle a commencé en 2014 et évidemment pas en 2022.
Non, c'est la guerre de 2014, bien sûr. C'est une nouvelle phase.
Une nouvelle phase, une nouvelle accélération, bien sûr, mais aussi une manière de montrer que finalement la société ukrainienne, elle a été habituée au conflit depuis 2014.
Oui, mais l'histoire ukrainienne est très dramatique. Les Ukrainiens étaient punis pour son amour de liberté à partir du XVIIe siècle. En fait, aussi dans le temps soviétique, la première déportation des paysans ukrainiens était causée par l'absence d'envie des Ukrainiens à rejoindre les kolkhozes, les fermes collectif. Et comme ça, après, c'était les famines artificielles.
Il faut rappeler ce qu'a été Holodomor.
C'est Holodomor, c'est la famine artificielle organisée par Moscou, par Staline, en 1932-33, quand entre 4 et 5 millions des Ukrainiens étaient morts de famine parce que l'alimentation était enlevée par l'armée russe. Et les gens étaient restés dans les provinces ukrainiennes sans rien à manger.
C'est ce qui témoigne de la complexité des relations entre la Russie et l'Ukraine.
Oui. Et en fait, c'est à cause des différences des mentalités que j'ai évoquées déjà. C'est à cause de l'individualisme des Ukrainiennes et son désir d'être indépendant des monarchies russes et de l'Union soviétique, d'idéologie communiste.
Et oui, c'est parmi ces choses-là qu'il faut tenter de comprendre ce qui se déroule aujourd'hui en Ukraine. C'est ce que vous racontez dans ce livre à la fois plein d'humour, terrible. Vous racontez par exemple comment la guerre est omniprésente jusqu'aux toasts portés dans les bars, comment la société ukrainienne est à la fois résiliente mais bien sûr se fissure, comment vous jugez sévèrement les bisbilles des politiques. On reparlera d'ailleurs des politiques et notamment du premier d'entre eux, de Zelensky, dans quelques minutes. Andrei Kourkov, Notre guerre quotidienne, c'est votre livre publié aux éditions Noir et Blanc. Il est 8h sur France Culture.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et oui, nous avons la chance d'être en compagnie du grand écrivain ukrainien Andrei Kourkov. Notre guerre quotidienne, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions Noir sur Blanc. Vous racontez cette guerre terrible qui s'est déclenchée en réalité pour les Ukrainiens en 2014. Mais bien sûr, il y a 3 ans, l'offensive a pris une autre ampleur. Vous racontez les difficultés quotidiennes, comment les personnes âgées ne peuvent plus sortir de chez elles parce qu'elles sont bloquées par les coupures de courant, comment on doit apprendre à vivre autrement, comment les Ukrainiens vont ou ne vont plus en vacances, comment on fait lorsqu'il y a des alertes. Et puis, j'ai envie de vous entendre parler de politique, parce qu'il y a un homme qui est apparu pour nous, Européens, nous, Français, que l'on connaissait mal, Volodymyr Zelensky. Quelle est pour vous l'image, quelle est pour vous la réalité de ce président, Andrei Kourkov?
Oui, c'est... Il y a une chose importante, je crois, dans cette situation, et c'est le fait que Zelensky est jeune, un politicien jeune, bien sûr sans expérience politique, mais avec beaucoup d'énergie et avec un certain talent de comédienne. Et c'est grâce à cette énergie qu'il a réussi, pendant les premières années de la guerre en grande échelle, à accumuler les aides à l'Ukraine des côtés de notre partenaire européen. Il reste encore très actif, mais on voit qu'il a changé beaucoup dans les dernières 3 ans. Il y a moins peut-être optimisme dans ses yeux. Il est devenu plus agressif pendant les rencontres internationales. Il essaye de participer dans toutes les conférences, toutes les événements où il peut parler sur la guerre d'Ukraine et demander plus d'aide. Mais bien sûr, en Ukraine, la vie politique continue et c'est pas la même vie politique qu'avant la guerre. Et il, avec son équipe, essaye aussi de contrôler la situation politique des dents en Ukraine. Et ce que je veux dire, c'est qu'il il continue de se battre avec l'opposition, par exemple, avec le président précédent, Petro Poroshenko, qui ne pouvait pas venir à Munich pour cette conférence à cause des sanctions imposées sur lui.
Mais lorsque la guerre a éclaté, je parle de la guerre en 2022, Andrei Kourkov, en France, on s'est dit, voilà, c'est une sorte de réincarnation, Zelensky, une sorte de réincarnation de Churchill, un homme qui dit une phrase aussi célèbre que « je n'ai pas besoin d'avion, j'ai besoin d'armes pour faire la guerre ». C'est un homme de la trempe de Churchill. Est-ce que c'est aussi la sensation des Ukrainiens? Est-ce que c'est leur vision avant? Est-ce que c'est toujours leur vision?
Non, beaucoup des Ukrainiens étaient surpris par le courage de Zelensky au début de la guerre. Parce que, 73% des Ukrainiens votaient pour Zelensky, 25% votaient pour Poroshenko, pour le président qui était avant. Mais les gens ne pensaient pas que vraiment Zelensky peut se comporter comme un homme d'État qui on peut comparer avec Churchill peut-être au début de la guerre. Mais bien sûr, après 3 ans, il y a moins de gens qui le soutiennent. Il y a toujours beaucoup, toujours jusqu'à 50%, selon le sondage. Mais bien sûr, on comprend qu'il se trouve aujourd'hui dans une situation très dramatique, parce que c'est lui qui doit signer l'accord avec la Russie. C'est lui qui doit parler au Trump et trouver une solution pour pas perdre le soutien d'Occident, des États-Unis et d'Europe.
Qu'est-ce qu'on lui reproche ?
Pardon ?
Qu'est-ce qu'on lui reproche à Zelensky ? Qu'est-ce que les Ukrainiens qui ne sont,
qui
pas,
ne sont pas contents ? Oui, plutôt le fait qu'il il a continué sa bataille avec l'opposition. Sa partie, le serveur du peuple, était déjà beaucoup fois dans le centre des scandales de corruption. Il devait en fait démissionner beaucoup, pas beaucoup, mais certains députés du Parlement qui étaient sous
corrompu.
Investigation, oui, corrompus. Et bien sûr, une autre chose, la partie politique qu'il a créée par Internet, c'était une partie sans idéologie. La différence, c'était que c'était plutôt les gens jeunes, sans expérience politique, sans expérience économique. Et aujourd'hui, bien sûr, on ne le rapproche pas à cause de ça, mais bien sûr, on attend qu'il va trouver plus des aides militaires, il va être capable de parler au Macron, au Scholz et demander plus en plus des choses pour l'Ukraine.
Bon, mais la corruption en Ukraine, ça semble être un véritable fléau. On a dit, par exemple, que l'aide internationale était détournée par des élus. C'est vrai ? C'est ce que vous observez ?
Je ne crois pas. Non, non. En fait, je suis survécu la corruption des débuts des années 2000. C'était la vraie corruption des, comment on dit, sur chaque niveau de la vie. C'était fini, en fait, en 2005 avec la révolution orange, l'élection du président Yushchenko, qui a réussi de changer un peu la situation avec la police, par exemple, ou dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, c'est la corruption qui existe, c'est la corruption sur le niveau plus haut. C'est-à-dire, c'est les industries, c'est les ministères qui donnent les licences et autorisations pour les entreprises. Et bien sûr, les accusations comme l'accusation de Elon Musk que les armes américaines étaient revendues à Mexique, c'est pas vrai, c'est pas possible parce que les Américains contrôlent en fait la logistique de livraisons des armes des États-Unis jusqu'à la ligne de front. C'est-à-dire c'est tout est noté, chaque missile est sous contrôle. Et comme ça, il y a, je crois, beaucoup des informations sur la corruption ukrainienne, c'est une partie des propagandes russes pour arrêter les pays occidentaux dans son désir à aider l'Ukraine avec des armes et des munitions.
Il y a aujourd'hui une volonté donc de l'Europe d'aider Zelensky. On voit bien que les États-Unis vont se désinvestir.
Oui.
Qu'est-ce que les Européens peuvent faire ? Qu'est-ce qu'ils devraient faire, selon vous, Andrei Kourkov ?
Oui, c'est une situation aussi tragique parce que on dit qu'il n'y a pas suffisant d'ammunition maintenant en Europe pour Europe même.
Oui.
L'OTAN. C'est difficile maintenant à parler de l'OTAN parce que l'OTAN c'est aussi Europe plus les États-Unis et les États-Unis ne veulent pas vraiment être plus engagés activement dans les dans les processus de, avec l'Ukraine, mais l'Europe plutôt doit, je crois, continuer soutenir l'Ukraine politiquement et avec des armes si c'est possible. Et comme je ne suis pas un expert militaire, mais je ne peux pas dire que la France peut faire ça et ça, mais bien sûr, aujourd'hui, c'est la question des ciels sous Ukraine. On a promis des dizaines et dizaines d'avions militaires pour défendre le ciel des villes ukrainiennes, et c'est moins que 20% qui est livré. Sont livrés.
Mais ça, c'est dans le cas où la guerre se poursuit. Si la guerre s'arrête, est-ce que, par exemple, vous imaginez que les Ukrainiens envoient des troupes pour protéger la frontière ?
Oui, l'armée ukrainienne, c'est presque 1 million de soldats qui sont fatigués, qui n'étaient pas remplacés pendant les dernières trois années. Et bien sûr, si on peut créer une force militaire internationale européenne et les engager sur le territoire ukrainien pour 2 ans, par exemple, jusqu'à la stabilisation des situations avec la Russie. Oui, c'est une solution très importante pour l'Ukraine. Ça va donner un peu de temps pour l'armée ukrainienne à se réorganiser. On a avoir suffisamment de temps pour les changements politiques, pour faire les décisions importantes, comment on va survivre maintenant après la guerre avec notre voisin à l'est du pays. Oui, c'est les troupes européennes, ils sont bienvenus en Ukraine encore.
Bien Est-ce sûr. Que vous envisagez justement la paix et vous écrivez par exemple dans ce livre « Je suis pressé que cette terrible guerre devienne de l'histoire, que s'inscrive dans notre mémoire collective un moment où l'Ukraine a retrouvé la paix, un mot rempli de tendresse accompagnant l'euphorie qui s'introduira dans la poésie et les romans, les films et les symphonies, les beaux-arts et l'architecture ».
Oui, maintenant je comprends que la silence sur la front est possible. La paix stable, c'est pas possible jusqu'à le moment quand la Russie s'échange, quand il y a des autres personnages à Kremlin qui comprennent qu'est-ce que la Russie a fait avec l'Ukraine, qui accepte la responsabilité pour les crimes de la guerre. Et ça va prendre, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans, ça sera une autre génération qui va, je crois, accepter la culpabilité en Russie. Et avant ça, la paix sera très fragile et plutôt ça ne sera pas la paix, ça sera quelque chose, une autre situation.
Vous êtes une figure éminente de la vie culturelle ukrainienne, Andrei Kourkov. Quel rôle jouent les acteurs justement de la culture, les écrivains, les metteurs en scène, les musiciens ukrainiens ?
Oui, ils essayent à motiver la population, à donner l'espoir, à donner les idées, les choix. Mais il faut dire que presque tous les écrivains, toutes les écrivaines écrivent sur la guerre. Et c'est le temps des non-fictions sur la guerre. Il y a peu de romans qui sont écrits aujourd'hui. Et il y a des films sur la guerre. Et cette situation me ressemble un peu à la situation après la Deuxième Guerre mondiale, quand toute la culture était sur la guerre, sur les héros soviétiques et sur les ennemis allemands. C'est-à-dire il y a un danger de répéter cette situation quand la culture va servir l'éducation patriotique plutôt que la vie quotidienne normale. Mais bien sûr, les gens de culture ukrainienne, ils sont jeunes, ils sont pleins d'énergie, ils sont très actifs, ils participent dans la vie sociale très, très activement. Et j'espère qu'ils comprennent aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour normaliser la vie après la fin de la guerre.
Vous êtes remis à écrire un roman, Andreï Kourkov. Est-ce que vous pouvez écrire sur autre chose que la guerre ?
Pas pour le moment. En fait, je ne pouvais pas écrire fiction pendant 2 ans et demi, jusqu'à juillet cette, l'année dernière. J'ai essayé, mais je ne pouvais pas. Et le 24 février 2022, j'ai arrêté l'écriture d'un roman que j'ai commencé en 2021 sur la guerre civile en Ukraine en 1919. Et j'ai réussi à finir ce roman le novembre dernier. Et je vais continuer la même histoire avec un autre roman, peut-être prochainement dans quelques semaines. Et ça sera aussi un polar historique l'histoire qui se déroule à Kiev pendant la guerre civile, après la révolution de 1917. Peut-être c'est la seule chose, le seul thème que je peux écrire. Il y a toujours la guerre, il y a des parallèles, des choses proches avec la situation d'aujourd'hui, parce que c'était aussi la guerre pour l'indépendance d'Ukraine, et l'Ukraine a perdu la guerre en 1921, est devenue la République soviétique et est restée la République soviétique pour 70 ans. Mais en tout cas, c'est déjà fiction, c'est pas non-fiction sur la guerre d'aujourd'hui.
Où est-ce que vous en êtes avec la culture russe, avec les grands noms russes, puisqu'il y a eu différents débats pour savoir si on avait le droit ou pas de continuer à lire les Russes, de jouer de la musique russe. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Parce que vous, vous êtes né en Russie, vous êtes russophone.
Être russophone ne signifie pas être une partie de culture russe ou être intéressé dans la culture russe. Jusqu'à 2005, j'ai lu les écrivains russes. Je suis toujours en contact avec Vladimir Sorokin qui vit à Berlin maintenant. Je suis en contact avec Boris Akunin qui vit à Londres. C'est-à-dire que c'est les bons écrivains, les écrivains libres. Et ils devaient partir de Russie. Ils sont encore respectés par certains Ukrainiens, mais la majorité des Ukrainiens ne veulent pas savoir aujourd'hui sur la culture, sur les nouvelles culturelles de Russie. Et bien sûr, tout est lié à Russie. Et c'est comme créer une irritation, un haine. À cause de la guerre. Pour moi, je n'écoute pas la musique russe, mais je n'écoutais pas la musique russe depuis 20 ans.
Vous écrivez, par exemple, vous dites « J'ai continué à écrire des textes littéraires en russe tout en me présentant et en me considérant comme un écrivain ukrainien. Certains de mes collègues ukrainophones se sont montrés hostiles à mon auto-identification. Ils s'obstinaient à me traiter d'écrivain russe et prétendaient que pour pouvoir me dire écrivain ukrainien, je devais écrire dans cette langue. »
Non, c'est ma langue maternelle, comme la langue maternelle de beaucoup des Ukrainiens. Et c'est simplement c'est l'instrument culturel, c'est pas le geste politique. Je peux écrire non-fiction en ukrainien sans problème. J'écris des livres pour les enfants en ukrainien. Mais il y a beaucoup des autres écrivains et poètes russophones qui sont marginalisés à cause de la guerre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les librairies ukrainiennes ne veulent pas vendre des livres en russe aussi s'ils sont écrits par les Ukrainiennes et édités en Ukraine. Aussi, le livre que j'ai fini en novembre va paraître qu'en ukrainien en Ukraine. Il n'y aura pas l'édition russophone. Mais on accepte ça comme les conséquences de la guerre, de l'agression de la Russie.
Mais vous écrivez par exemple, la majorité des Russes soutient l'invasion de l'Ukraine. Pour les quelques personnes qui font le choix d'aider les Ukrainiens, la pression et le harcèlement peuvent devenir trop importants. Vous pensez donc qu'il y a aujourd'hui, hélas, une majorité de Russes, malgré la terreur, parce que la terreur rend les choses évidemment difficiles, vous pensez qu'il y a une majorité de Russes qui soutient Poutine?
Je suis sûr de ça, je suis sûr. J'ai regardé YouTube, les chaînes russes, le TikTok russe, les réseaux sociaux, pour comprendre qu'est-ce qu'ils pensent les Russes ordinaires. Et je dois dire oui. Il y a des milliers et des milliers des posts, des vidéos où ils soutiennent Grande Russie. Ils croient que la Russie est plus importante que les autres pays, que le peuple qui habite près de la Russie.
Bon, mais à la fois, l'exemple de Navalny est un exemple qui permet de dissuader beaucoup de gens de protester contre Poutine.
C'était pas beaucoup de gens, en fait, c'était une minorité, et cette minorité n'existe plus. C'est-à-dire que la Russie est sous contrôle des gens des services secrets russes, des ex-KGB, des Poutine, et il peut être tranquille et sûr que tout, en Russie propre, se passe comme il veut.
Qu'est-ce que l'on peut faire pour aider les Ukrainiens, pour les auditeurs qui voudraient vous aider, Andreï Kourkov? Qu'est-ce que vous leur suggérez?
Je veux que les lecteurs français comprennent mieux l'histoire ukrainienne et la mentalité ukrainienne. Pour ça, il faut lire les livres écrits par les Ukrainiennes ou livres sur l'histoire d'Ukraine. Il y a pas mal de livres.
Qu'est-ce que les Français ne comprennent pas sur l'Ukraine?
La différence entre les Russes et les Ukrainiens. Le fait que l'Ukraine était déjà un pays, un territoire indépendant au XVIe siècle. L'histoire, comment en fait l'Ukraine du XVIe, XVIIe siècle a perdu l'indépendance à Russie? Comment les tsars russes en fait essayaient à écraser l'identité ukrainienne, la langue ukrainienne, parce que à partir de 1720, il y avait plus que 40 lois contre la langue, la culture, le théâtre ukrainien, les chansons. C'est-à-dire, c'était une politique de russification d'Ukraine pour les assimiler, pour faire les Ukrainiens les Russes. Et exactement les mêmes mots étaient récemment utilisés par Poutine, qui disait que les Ukrainiens n'existent pas, c'est les Russes qui pensent qu'ils sont différents.
Oui, ce qui est terrible, c'est de voir le passé ukrainien, la manière dont la Russie a littéralement exterminé les Ukrainiens jadis pendant la Grande Famine. Oui. Aujourd'hui, donc, avec cette guerre, il y a un véritable conflit d'histoire entre les deux récits qui sont racontés.
Oui, c'est la troisième fois, en fait, que la Russie essaie d'écraser l'identité ukrainienne et intégrer l'Ukraine, le territoire ukrainien, dans l'Empire russe.
Pour réaliser les dégâts donc, qui sont causés dans la population, dans la société ukrainienne, votre livre, Andreï Kourkov, Notre guerre quotidienne, traduit de l'anglais par Johan Beer et Odile Demange, c'est un livre publié aux éditions Noir sur Blanc. Dans quelques instants, mes camarades Thomas Baumgartner, puisque François Saltiel est en vacances, et Lucille Como, et puis auparavant, eh bien, le journal, le 8:45 d'Héloïse Roger.